Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au Nigeria, quatre États du Nord ont ordonné la fermeture des écoles pendant le Ramadan, suscitant l'indignation des chrétiens et des syndicats de l'enseignement. Le Programme alimentaire mondial a amorcé la fermeture de son bureau en Afrique australe, faute de fonds. L'Égypte accueille une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères avant un sommet des dirigeants arabes consacré à Gaza. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Quatre États à prédominance musulmane du nord du Nigeria ont ordonné la fermeture des écoles pendant le Ramadan, le mois de jeûne, suscitant les réactions des chrétiens et des syndicats de l'enseignement. Dilidiko.
La décision prise par les autorités des États de Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi a conduit à la fermeture des écoles primaires et secondaires la semaine dernière pour permettre aux élèves de passer le Ramadan chez eux. Cette mesure a suscité de vives critiques dans le pays. L'association chrétienne du Nigeria menace d'intenter une action en justice contre les gouvernements des quatre États. L'éducation de nos enfants et l'unité de nos États sont en jeu, a déclaré David Oko, président de cette organisation. Pour sa part, l'Association nationale des étudiants nigérians s'est dite prête à organiser des manifestations à l'échelle nationale si les quatre États n'annulent pas la fermeture des écoles dans les 72 heures. Dans un communiqué publié jeudi, Aminu Ousmane, chef de la police islamique de Kano, la Hizba, a demandé aux écoles privées de se conformer à l'ordre, déclarant qu'aucun manquement ne sera toléré. Deux jours avant, le ministère de l'Éducation de Kano avait ordonné à toutes les écoles publiques de fermer le 28 février et de rouvrir le 7 avril afin de terminer le trimestre. Les quatre États concernés n'ont pas réagi à la polémique suscitée par leur décision de fermer les écoles.
Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema s'est déclaré aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle du 12 avril lors d'un discours à Libreville. Après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, a-t-il dit sous une pluie battante. Arrivé au pouvoir après le coup d'État du 30 août 2023, qui a mis un terme à la dynastie Bongo, l'ancien chef de la garde présidentielle était devenu président de la transition. Il est toujours président de la transition. La campagne électorale est prévue du 29 mars au 11 avril minuit. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a rencontré hier le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, à Kigali. Monsieur Kainerugaba, qui est aussi le fils du président ougandais Yoweri Museveni, avait déclaré samedi qu'il allait signer à Kigali un pacte de défense entre l'Ouganda et le Rwanda, ajoutant « Quiconque attaque l'un de nos pays aura déclaré la guerre aux deux pays ». Cette rencontre intervient alors que l'avancée rapide du groupe armé M23 et de troupes rwandaises dans l'est de la RDC fait craindre un embrasement régional. Les médiateurs de la CEDEAO dépêchés en Guinée-Bissau ont préparé un projet d'accord sur une date des élections, ont-ils indiqué dans un communiqué, ajoutant avoir quitté le pays après des menaces d'expulsion du président Oumarou Sissoko Embalo. Ces médiateurs de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest étaient à Bissau du 21 au 28 février pour trouver une solution aux divergences entre le pouvoir et l'opposition sur la date de la fin du mandat du président Embalo. Le Programme alimentaire mondial, dont près de la moitié du budget provient du gouvernement américain, a amorcé la fermeture de son bureau en Afrique australe, faute de fonds. L'agence onusienne l'a annoncé ce lundi, alors que l'Afrique australe fait face à une sévère sécheresse. Lionel Gaïma.
Dans le cadre de son programme politique, l'Amérique d'abord, l'administration du président Donald Trump a réduit l'aide étrangère, y compris le financement des programmes humanitaires des Nations Unies. Le Programme alimentaire mondial n'a pas quantifié les pertes qu'il subirait du fait des coupes budgétaires américaines, mais son porte-parole régional, Thompson Peary, a déclaré que les perspectives de financement des donateurs étaient devenues limitées. Les États-Unis sont le principal donateur du PAM, qui fournit une aide alimentaire et financière aux personnes souffrant de la faim en raison des pénuries de récoltes, des conflits et du changement climatique. L'année dernière, Washington a fourni 4,5 milliards de dollars à cette agence onusienne sur un budget de 9,8 milliards de dollars. Le PAM consolidera des opérations en Afrique de l'Est et en Afrique australe et les dirigera depuis Nairobi.
Le gouvernement éthiopien a levé la suspension critiquée de 4 ONG indépendantes de défense des droits humains, a annoncé aujourd'hui le HRC, la Commission éthiopienne des droits humains, une institution publique. En décembre, le HRC avait exprimé sa préoccupation quant à l'impact de ces suspensions sur l'espace civique et la jouissance de la liberté d'association en Éthiopie. L'ONG internationale Human Rights Watch avait dénoncé fin janvier une répression contre la société civile.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les chefs de diplomatie arabe ont entamé ce lundi au Caire une réunion pour préparer un sommet extraordinaire dédié à la reconstruction de Gaza, avec un projet alternatif à celui du président américain. Il devrait être soumis à l'approbation des dirigeants arabes lors du sommet prévu mardi. Nanit Talani.
La réunion ministérielle discute à huis clos d'un plan arabo-égyptien pour reconstruire l'enclave ravagée par 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas, sans déplacer sa population palestinienne, a indiqué une source de la Ligue arabe sous couvert de l'anonymat. Selon le chef de la diplomatie égyptienne, Bader Abdelati, le plan de reconstruction de Gaza est désormais prêt et sera présenté aux dirigeants arabes demain. Il devrait être adopté par les dirigeants arabes lors de leur sommet mardi dans la capitale égyptienne. Ce plan est différent de celui de M. Trump qui a proposé, début février, une prise de contrôle américaine de la bande de Gaza après la fin des combats, ainsi que le déplacement de ses quelque 2,4 millions d'habitants en Égypte et en Jordanie afin de reconstruire le petit territoire palestinien et d'en faire la rivière du Moyen-Orient. Le projet du président Trump a provoqué un tollé international et a été rejeté par les Palestiniens et les pays arabes, dont la Jordanie et l'Égypte. Le chef de l'exécutif américain a ensuite expliqué qu'il n'imposerait pas son projet, mais qu'il le recommanderait simplement.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a accusé lundi Israël d'avoir œuvré à un effondrement de l'accord de trêve à Gaza, aujourd'hui dans l'impasse. Par ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé aujourd'hui le Hamas de conséquences que le mouvement islamiste palestinien ne peut pas imaginer, selon ses mots, s'il ne relâche pas les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Également, une attaque au couteau a fait un mort et 4 blessés ce lundi matin à Haïfa, la grande ville du nord d'Israël. Le Kremlin appelle à forcer Volodymyr Zelensky à faire la paix. Le président ukrainien, de son côté, estime que tout cessez-le-feu en Ukraine serait voué à l'échec si des garanties de sécurité n'étaient pas en place pour éviter une reprise des hostilités. Alexandrine Holonion.
Quelqu'un doit forcer Zelensky à changer d'avis. Il ne veut pas la paix. Quelqu'un doit le forcer à vouloir la paix, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point de presse. Si les Européens le font, honneur et gloire à eux, a ajouté Dmitri Peskov en référence à un sommet des alliés européens de Kiev qui a eu lieu dimanche à Londres. Zelensky a participé dimanche à Londres à cette réunion avec les alliés de l'Ukraine, 2 jours après une altercation en direct avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a déclaré devant la presse que ce sera un échec pour tout le monde si l'Ukraine est forcée à un cessez-le-feu sans de sérieuses garanties de sécurité. Il a évoqué comme exemple le cessez-le-feu en vigueur dans l'est de l'Ukraine entre 2015 et l'invasion russe de février 2022. Washington, qui a entamé des négociations avec la Russie sans y associer ni l'Ukraine ni l'Europe, reproche aux dirigeants ukrainiens de ne pas accepter un cessez-le-feu inconditionnel.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. l'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
Au Cameroun, les producteurs locaux ont approuvé le statut du groupement représentatif de l'indication géographique et adopté un règlement intérieur visant à encadrer le processus de labellisation de l'igname de Mbé dans la région de l'Adamawa, d'après la presse locale. Cette certification, en plus de renforcer la visibilité sur les marchés nationaux et internationaux, pourrait stimuler la demande pour cette variété d'igname tout en améliorant sa traçabilité. Après avoir obtenu des labels prestigieux pour le poivre de Pendja et le miel blanc d'Oku, le Cameroun espère tirer parti de cette dynamique pour valoriser son patrimoine agricole. En Égypte, le ministère du Pétrole a annoncé de nouvelles offres d'investissement pour développer sept champs en Méditerranée et six zones d'exploration dans le golfe de Suez et le désert occidental. Pour terminer, aux États-Unis, l'administration de l'information sur l'énergie ou évaluation de l'impact environnemental prévoit une hausse de la production de pétrole et de gaz en 2025 avec un léger accroissement de la production de pétrole à 13,6 millions de barils par jour. Les analystes s'attendent à ce que les prix du pétrole restent stables, tandis que les prix du gaz devraient augmenter de 73%, incitant les producteurs à intensifier leurs activités de forage après une baisse en 2024.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Fin hier des barrages allés, des qualifications pour le prochain CHAN.
Oui, à noter la belle performance réalisée par le Malawi, vainqueur en déplacement 2-0 sur la pelouse des Comores. Tout reste en revanche à jouer le week-end à venir pour les deux autres matchs. L'Afrique du Sud accrochée un but partout à domicile par l'Égypte et zéro but partout à Thiès au Sénégal entre la Gambie et le Gabon. Les vainqueurs du match Comores-Malawi et Afrique du Sud-Égypte vont s'affronter au second tour. Et celui entre la Gambie et le Gabon sera opposé à l'Algérie. Les deux vainqueurs de ces barrages rejoindront le groupe C de la phase finale, déjà composé de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée.
La FIFA me devait cet argent, martèle Michel Platini au premier jour de son procès en appel en Suisse, dans l'affaire du paiement suspect qui a brisé sa carrière en 2015.
Acquitté en première instance en 2022, le Français de 69 ans est rejugé aux côtés de l'ex-patron de la FIFA, Sepp Blatter, pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres par la cour d'appel extraordinaire du tribunal pénal fédéral à Moutens, près de Bâle. Je ne comprends toujours pas pourquoi le ministère public s'acharne sur moi, a lancé Michel Platini au début de son audition, répétant avoir aidé le Suisse à conquérir la présidence de la FIFA en 1998 avant de devenir son conseiller jusqu'en 2002, mi-1999, alors que Platini conseillait déjà Blatter. Sans contrat ni rémunération, il lui aurait dit « Je ne peux pas te payer le million, je n'ai pas d'argent » et les deux hommes auraient alors convenu d'un accord écrit pour 300 000 francs suisses par an, intégralement payé aux Français. Il m'a dit « Je te donnerai le solde plus tard quand on aura de l'argent à la FIFA » a poursuivi Platini, qui a donc présenté en janvier 2011 une facture de 2 millions de francs suisses à l'instance du foot, qualifiée par le parquet de fausse facture, destinée à escroquer l'organisation.
Basketball ici en NBA, Boston contient Denver.
Boston, champion en titre, a été en tête presque toute la partie, comptant jusqu'à 20 points d'avance, avant de voir Denver, champion en 2023, revenir lors du troisième quart-temps pour rester menaçant en fin de rencontre. Mais Derek White, 17 points, et Alford, 19 points, ont tenu le choc jusqu'au bout au relais de Jaylen Brown, 22 points, permettant à Boston de s'imposer 110 à 103. Boston deuxième à l'Est et Denver troisième à l'Ouest ne s'affronteront plus cette saison, sauf lors d'une éventuelle finale NBA au mois de juin. Leader à l'Est, Cleveland a souffert pour enchaîner un dixième succès face au mal classé Portland, 133 à 129 après prolongation. Le Thunder d'Oklahoma City, solide leader à l'Ouest, a été bousculé pendant trois quarts-temps par les San Antonio Spurs. Avant de dérouler 146 à 132, les Lakers ont conquis une deuxième victoire en trois jours dans le derby de Los Angeles face aux Clippers, 108 à 102, notamment grâce à Luka Doncic, éblouissant. Le Slovène a inscrit 29 points, pris 9 rebonds et distribué 9 passes décisives. LeBron James a marqué 17 points et 9 passes décisives face aux 33 points et 10 rebonds de Kawhi Leonard, qui a réussi sa meilleure performance à la table de marque depuis son début de saison en janvier. Phoenix, les Suns ont de nouveau À Phoenix, les Suns ont de nouveau montré leur mauvais visage et ont été renversés par Minnesota 98-116.
Merci Yakuba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Une mission de la CEDEAO envoyée en Guinée-Bissau pour résoudre un conflit électoral a quitté le pays. La délégation du bloc régional a déclaré dans un communiqué que sa mission avait quitté le pays samedi après que le président Oumaro Sissoko Embalo a menacé de l'expulser. La mission a été déployée du 21 au 28 février avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel afin d'aider a trouvé un consensus sur la date de l'élection présidentielle. Pour une analyse, Alexandrine Holognon a joint Paulin Maurice Toupane, chercheur principal au bureau régional de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité à Dakar.
Alors, je pense que le président de la République ne voulait pas que la délégation de la CEDEAO puisse rencontrer les principaux partis de l'opposition qui se sont constitués en deux principales coalitions, PAIGC Teranga et la coalition dirigée par le PAIGC et API dirigée par Nounouna Blan. Bien sûr, il y a eu d'autres coalitions de partis politiques, de mouvements sociaux et de partis politiques tels que le Front Populaire. Mais fondamentalement, le président de la République ne voulait pas cette rencontre entre la mission et les partis politiques qui réclament la démission du président de la République en tant que président en exercice de la Guinée-Bissau parce que son mandat est fini le 27 février 2025.
On avait compris que cette mission, l'admission a débuté en l'absence du président Embalo Sissoko qui était en Russie lorsque la mission est arrivée en Guinée-Bissau et qui a rencontré certains partis de l'opposition. Comment ça fonctionne? Pour qu'une mission de la CEDEAO puisse se rendre dans un pays, il faut l'aval des autorités de ce pays au préalable, n'est-ce pas?
Bien sûr, il faut l'aval des autorités de ce pays et la décision de l'envoi de cette mission de la CEDEAO a été décidée lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Abuja au mois de décembre 2024. M. Mbalo était au courant de la venue de cette délégation et avait bien sûr accepté la venue de cette délégation. La divergence vient du fait que les autorités bissau-guinéennes qui sont dans une logique de bien sûr conservation du pouvoir ne voulaient pas en fait que la délégation rencontre cette opposition qui conteste Mbalo comme étant le président actuel de la Guinée-Bissau.
Un nouveau revers pour la CEDEAO qui perd de plus en plus de la crédibilité face aux États de la sous-région.
Mbalo est un président, il a été président en exercice de la CEDEAO il n'y a pas longtemps, qui met la pression sur une mission de la CEDEAO qui vient essayer de trouver une solution à la crise actuelle dans son pays. C'est une surprise en fait pour moi, c'est une surprise. Et donc je pense que même si la CEDEAO est dans une situation difficile actuelle, on sent que l'organisation essaie d'éviter que la Guinée-Bissau bascule dans une crise. Une crise qui pourrait accentuer la situation d'instabilité de la région. Si on sait que le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà quitté la CEDEAO, la Guinée est sous transition et il y a des pays qui sont dans une situation de fragilité actuellement telle que la Guinée-Bissau. Donc l'objectif de la CEDEAO étant d'éviter que la Guinée-Bissau plonge dans une autre crise institutionnelle. C'est pourquoi la mission a été envoyée pour essayer de trouver une solution à la crise.
Et avec le départ de la mission de la CEDEAO et l'absence de médiation, comment voyez-vous l'issue de cette situation en Guinée-Bissau?
Alors, je pense que la CEDEAO va continuer ses efforts de médiation. La mission a promis de soumettre le rapport à la commission de la CEDEAO. Je pense qu'un dialogue entre les acteurs politiques pourrait permettre de trouver une solution. Il faut surtout pas que la CEDEAO, malgré le renvoi de la mission par le président de la République, il ne faut surtout pas que la CEDEAO baisse les bras.
C'était Paulin Maurice Toupane, chercheur principal au bureau régional de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité à Dakar.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, les autorités des États de Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi, à prédominance musulmane dans le nord du pays, ont ordonné la fermeture des écoles pendant le Ramadan. La fermeture de ces écoles dans les zones concernées, la semaine dernière, a suscité des critiques de la part de l'Association nationale des étudiants nigérians et de l'Association chrétienne du Nigeria, qui a menacé d'intenter une action en justice contre les gouvernements des quatre États. Pour une analyse, Yakuba Ouedraogo, adjoint à Lagos, à Kambi Ilou Péjou, professeur titulaire de sociolinguistique et doyen de la faculté des lettres de l'université de Lagos.
Lorsqu'il s'agit des éléments fédérés comme les États, le gouvernement prend des décisions sur ce qui concerne la structure de l'État concerné. Ça n'a rien à faire avec la décision fédérale, sauf si ces écoles sont des écoles fédérales. Si ce sont les écoles qui appartiennent à l'État, le gouverneur peut légiférer sur sa nature. L'ouverture, les congés, ça, c'est comme ça.
Il faudrait retenir que ce ne sont pas des écoles fédérales et donc...
Ça ne concerne que les États qui les ont déclarées et ça ne concerne pas les écoles qui appartiennent à la fédération, c'est-à-dire au gouvernement fédéral. Donc le président n'a pas d'autorité ni l'Assemblée nationale, sauf les assemblées étatiques.
La fermeture des écoles dans les zones concernées a suscité des critiques de la part notamment de l'Association nationale des étudiants nigériens et de l'Association chrétienne du Nigeria qui menace d'intenter une action en justice contre les gouvernements de ces quatre États-là. Est-ce que cela peut prospérer?
La Cour va prendre la décision concernant l'autonomie de chaque État en ce qui concerne la gérance des affaires intérieures, qui concerne seulement l'État. Vous savez, si c'était la police, les militaires, ainsi de suite, c'est ça, l'État n'a pas de pouvoir sur eux. Ça sera le gouvernement fédéral. Ainsi que les écoles comme les universités qui appartiennent au gouvernement fédéral et aussi à des écoles d'unité qui sont partout dans le pays, qui ne concernent que la gérance du ministre de l'Éducation nationale. Vous savez, le Nigeria, on peut protester contre n'importe quoi, mais il y a la Cour qui décide.
On sait que les États concernés sont Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi. Est-ce que ce sont des mesures qui sont habituelles dans ces zones-là ou c'est la première fois?
Vous savez, il y a des gens qui traduisent tout en politique. Quand il s'agit de la politique, il faut un peu freiner sa décision ou ses critiques. Ils le font peut-être parce que le gouvernement fédéral touche aux attentats qui sont menés dans ces États et que, des fois, les autochtones sont mêlés. Alors, ils cherchent surtout à tout prix une situation comme ce dont on parle pour soulever des émeutes. Si c'était les parents d'élèves qui protestaient, c'est on va comprendre. Mais si c'est l'association des chrétiens et les étudiants universitaires qui veulent protester, ça n'a pas de sens chez moi. Au fur et à mesure que les parents sont d'accord avec la décision de ce gouverneur, personne ne peut faire quoi que ce soit. Puisque normalement, ce dont les gens ne parlent pas, les écoles dans le nord du Nigeria sont gratuites par rapport aux écoles qui se trouvent dans le sud. C'est le gouvernement qui subventionne dans la majorité le financement de l'école dans les États que vous avez nommés. Alors s'il décide que ses employés restent à la maison pendant un mois, c'est sa décision, mais il va les payer leur salaire. Alors cela ne va pas empêcher que les étudiants, selon moi, qui sont en année finale, qui vont passer un concours international ou un concours national, n'arrivent pas à l'école. Mais les gens veulent tirer de la politique dans tout. Nous sommes dans un pays fédéral. Chaque État décide de ce qu'il veut.
C'était Akambi Ilou Péjou, professeur titulaire de sociolinguistique et doyen de la faculté des lettres de l'université de Lagos. Près d'un million de réfugiés soudanais ont fui vers le Tchad, échappant à ce que les États-Unis ont qualifié de génocide au Darfour. Face à cet afflux, le pays a pris une mesure inhabituelle. Il leur permet de travailler. Grâce à une loi jugée progressiste sur l'asile, ces réfugiés trouvent des moyens de reconstruire leur vie, tandis que des entrepreneurs tchadiens leur proposent les rares emplois qu'ils peuvent offrir. Henry Wilkins nous rapporte les faits depuis Adré, au Tchad. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Près d'un million de réfugiés ont fui la guerre au Soudan depuis 2023, se dirigeant vers l'ouest en territoire tchadien. Ils fuient ce que Washington décrit comme un génocide au Darfour. Monira Gamra, propriétaire d'une entreprise à Adré, près de la frontière soudanaise, dirige une petite usine produisant de l'huile d'arachide et de la glace.
Les Soudanais souffrent. Ils luttent pour survivre en arrivant ici, mais il n'y a pas de travail pour eux. Nous essayons de les aider en les embauchant, mais nous n'avons pas les moyens de leur payer de quoi manger.
Contrairement à la plupart des pays qui accueillent des réfugiés, le Tchad leur permet de travailler grâce à une loi novatrice sur l'asile, adoptée quelques jours seulement après le début de la guerre. Eugene Bioun du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est d'avis que cette approche tchadienne est susceptible de changer la perception des réfugiés à l'échelle mondiale.
Cela pourrait être vu comme un fardeau, mais nous voulons vraiment transformer cette perception.
Quand on lui demande à quel point l'approche du Tchad est inhabituelle, Bioun répond.
C'est une opportunité extrêmement rare et c'est quelque chose que le HCR a encouragé le gouvernement à faire, intégrer les réfugiés dans la société, notamment à travers l'éducation, le système de santé et l'accès à l'emploi.
Des recherches menées par la Banque mondiale montrent que l'impact économique de cette loi, qui vise à encourager les réfugiés à jouer un rôle actif dans l'économie, demeure limité en raison de l'éloignement des camps de réfugiés. Ces zones reculées offrent peu de ressources pour soutenir l'emploi. Selon ces recherches, les réfugiés exercent une pression sur l'un des pays les plus pauvres du monde, même si le PIB tchadien est resté stable depuis l'adoption de la loi. Parmi ceux et celles qui bénéficient de cette loi figure Salama Muhammad, qui a fui les violences ethniques au Soudan.
J'ai cherché simplement un endroit sûr pour mes enfants. Puis soudain, nous avons été pris en embuscade. Des hommes armés à moto nous ont encerclés. Notre voiture s'est retrouvée piégée au milieu et nous étions terrifiés.
Aujourd'hui installée au Tchad, elle gagne sa vie en fabriquant les objets décoratifs pour la maison. Cependant, Mounira Gamra reconnaît que les tensions persistent entre les locaux et les réfugiés.
Certains Soudanais vont au marché, s'emparent des affaires des gens et créent des problèmes.
Le Kenya a adopté une loi similaire sur le travail des réfugiés en 2021. Les recherches montrent que cette initiative a eu un impact économique positif dans le pays.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La nécessité de mettre fin aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, les droits de douane et la réduction des effectifs du gouvernement fédéral américain, ce sont là quelques-uns des sujets que le président Donald Trump devrait mettre en avant lorsqu'il prononcera le premier discours de son second mandat devant le Congrès cette semaine. Véronica Balderas-Iglesia de la VOA nous en parle, le récit est de Nanit Talani.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Comme il l'avait fait en 2017, le président américain Donald Trump devait s'adresser mardi à une session conjointe du Congrès. La guerre entre la Russie et l'Ukraine devrait occuper une place importante dans le discours de M. Trump, alors que son administration déploie des efforts pour faciliter les négociations de paix entre les parties en conflit. Donald Trump.
Je cherche la paix. Nous ne cherchons pas à entrer dans une guerre de 10 ans et s'amuser. Nous voulons la paix.
Le dirigeant américain pourrait également informer le Congrès de sa position sur la guerre entre Israël et le Hamas et sur l'avenir de Gaza. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 4 février, Donald Trump a suggéré que les États-Unis transforment Gaza en rivière du Moyen-Orient.
Les États-Unis possédant ce morceau de terre, le développant et créant des milliers d'emplois avec quelque chose qui sera magnifique.
Les analystes s'attendent également, lors de son discours au Capitole, à ce que M. Trump explique la raison pour laquelle les États-Unis imposent des droits de douane à d'autres pays. Shannon Baugh O'Brien est professeur à l'Université du Texas à Austin.
Je crois qu'il pense que s'il impose des droits de douane, cela provoquera une hausse des prix qui obligera les fabricants à revenir aux États-Unis pour éviter ces droits de douane.
M. Trump pourrait également répondre aux critiques que son administration a reçues sur la rapidité et l'ampleur de ses efforts pour réduire les dépenses gouvernementales, diminuer la fraude et le gaspillage et réduire le nombre d'employés fédéraux.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.